Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue dans ce sixième épisode du Forumcast, le podcast de forum.com. Je suis l'époustouflant Addy Boy, je serai votre hôte pour cette sixième épisode et je suis toujours entouré de mes fabuleux collaborateurs, le sémillant Metal Neo.
Salut.
Et l'affolant Travis.
Bonjour à tous.
Ouh, tu es affolant.
Affolant,
il est affolant. On ne sait pas quoi mais j'affole.
Alors d'ailleurs moi je voulais juste dire un truc, c'est que oui, Addy Boy et moi-même Metal Neo, on existe bien.
Oui, oui,
selon les derniers commentaires.
Merci, merci de ce que je...
Nous sommes réels.
Nous sommes réels, on
nous
est palpables.
Nous ne sommes pas une des 23 personnalités de Travis.
Non.
À la limite, c'était crédible, mais quand on parle tous les trois en même temps, ça devient compliqué.
Bah, la magie de l'édition,
oui. Oui, c'est pas
ça aurait été possible. Mais non, voilà. c'est bien nous.
En effet.
On existe.
Voilà, je m'appelle Jean-Jacques Larcher, j'ai 53 ans et j'habite... Bon, bref. Alors au programme de cette sixième émission, nous allons tout d'abord commencer par nos actualités comme d'habitude. Ensuite, nous verrons ensemble les séries Snatch, adaptées du film de Guy Ritchie, et Iron Fist, la dernière série de super-héros produite par Netflix. Et nous terminerons par une petite thématique Girl Power. Donc en ce qui concerne les actualités, je vais laisser la parole à Travis.
Oui, je vais vous parler d'un pilote que j'ai tenté récemment en m'abonnant à Amazon Prime, aux 30 jours gratuits d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a 30 jours offerts et ça donne accès au privilège Amazon Prime pour les achats, mais aussi à Amazon Prime Video.
Prime Video.
Voilà.
Qui ça dispose. Fonctionne pareil que Netflix.
C'est un équivalent de Netflix, c'est même un concurrent de Netflix et ils ont leur propre série originale.
The Man in the High Castle, notamment.
Notamment, qui est une série intéressante et adaptée d'un
bouquin de Philip K.
Dick,
un best-seller.
Ouais.
Dont on pourra parler un jour. Personnellement, j'ai un peu arrêté en cours de saison 1, mais c'était pas mal.
Pareil.
J'ai arrêté faute de temps, mais voilà.
Pareil.
C'était pas parfait, hein, mais c'était pas mal.
Il y avait un sacré pareil. Twist et tout ça.
J'ai pas.
Je
pense
un peu
derrière il y a une bonne histoire à mon avis, mais je suis pas allé assez loin pour
c'est
en parler.
C'est réalisé en plus, enfin du moins c'est réalisé par sa fille en plus, je crois, à Kadik, donc c'est un projet super personnel.
J'ignorais cette information.
Qui reste assez familial, je crois. Enfin, je sais pas si c'est elle qui réalise, mais elle est impliquée au projet.
Elle est impliquée
d'une certaine
projet.
Façon. Elle est impliquée dans le projet. Donc moi ça m'a donné envie aussi de le voir, mais j'ai jamais encore
je
essayé.
Pense qu'on essaiera de le regarder et d'en parler.
Après voir.
Ça peut être intéressant. Il y a pas mal de séries Amazon dont on peut parler, et notamment une qui s'appelle Goliath.
Ah oui, Goliath. Oui.
Voilà, avec Billy Bob Thornton.
Oui.
Qui a fait beaucoup parler de lui pour son rôle dans Fargo, dans la saison 1 de Fargo.
C'est pas fini, Fargo.
Voilà, où il avait un rôle qui était vraiment charismatique, etc. C'était très similaire au film, mais il y avait de très bonnes choses dedans. Et notamment lui qui était un petit peu pas une révélation parce qu'il est déjà bien récompensé et bien connu. Mais en tout cas, il a bien sorti son épingle du jeu avec pas forcément le grand nombre de scènes.
On va dire que tout ce qu'il faisait avant Fargo, c'est commencé à être le déclin quand même. Hein. C'était pas...
Ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu parler de lui
exactement,
dans un grand film.
Et puis je pense que même quand on le voyait, c'était dans des films un peu genre Bad Santa.
Exactement ce que j'allais dire.
Il y a des trucs un peu
souvenirs,
vraiment à l'image peut-être de sa personnalité. Je ne veux pas m'avancer, mais c'est plutôt quelqu'un d'atypique.
Il a l'air, il va pas forcément très bien dans le paysage hollywoodien classique de gens tout bien sous tout rapport.
Ouais. Ouais, mais bon, c'est vrai que là, Fargo, ça avait été une belle révélation à nouveau de son talent.
Ouais, tout à fait. Ouais. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais pour le coup, voilà, il avait fait parler de lui. Et là, il revient avec une série Amazon qui a déjà une première saison diffusée. Je crois que la deuxième est en... pour bientôt.
Et je te coupe à nouveau, mais Amazon, même style que Netflix, c'est-à-dire une saison entière dès le jour
en
J.
En un bloc, exactement.
Parfait.
Diffusion, streaming, etc.
Super.
C'est plutôt pas mal fait d'ailleurs, leur système de streaming sur ordinateur en tout cas. Mm-hmm. Pour encore une fois, 30 jours gratuits, donc ça peut être intéressant, notamment
avis,
pour regarder.
Au moins regarder les quelques
Man
séries qui existent
Castle,
déjà.
Etc. Ouais.
Alors par contre, il faut faire juste un truc, il faut faire très attention avec Amazon Prime. Bah, comme pour Netflix, je pense, c'est qu'il ne faut pas oublier, si vous n'avez pas l'intention de les garder au bout des 30 jours, de les prévenir, parce que sinon, bah, on se retrouve avec 50€ débités et bon. Après, c'est pas mal, hein, l'Amazon Premium, hein, honnêtement, c'est pour en être un fervent utilisateur, c'est cool. Mais voilà, je relaisse la parole à Travis.
Voilà, donc là, il revient avec une série d'avocats, mais qui n'est pas vraiment une série d'avocats. C'est pour ça que je ne l'avais pas tenté dès le début. C'est une série où il joue un avocat de renom qui et un peu tombé dans la déchéance, bon, scénario classique jusque-là. Et là, il va tomber sur une affaire où il va être opposé à une grosse compagnie.
D'où le David et Goliath.
Exactement, exactement ça. C'est pas dit clairement, mais
on le devine très
facilement. Et il va s'opposer à cette grosse compagnie qui est représentée par son ex-femme, par la grosse société d'avocats à laquelle il appartenait et qu'il a quitté pour des raisons qu'on ignore. Et donc, il va y avoir cette opposition-là. Et très rapidement, il va se rendre compte que la société qui contre laquelle il intente un procès va assez loin dans les moyens pour le faire taire ou pour l'arrêter.
Les attaques personnelles,
c'est,
et compagnie.
C'est classique. C'est un peu du damages pour ceux qui avaient suivi, mais en un peu plus soft pour l'instant, en un peu plus réaliste aussi. Et il y a un casting qui est assez énorme. William Hurt, Molly Parker, dont on parlait la dernière fois pour Deadwood, Maria Bello, Olivia Thirlby, qui est une Canadienne qui avait fait parler d'elle pendant un moment pour les films notamment, et un film français, qui est une excellente actrice, mais j'ai plus en tête exactement tout ce qu'elle a fait. Et il y a Tania Raymond, qui devrait vous parler.
Qui joue dans Tania Raymond.
Tania Raymond, qui jouait une adolescente dans une série culte, pour pas dire la série culte.
Dawson.
on n'a pas le même âge, je pense.
Oui, la série culte des années, on va dire, 2000, par là. C'est Lost. Bon, vous me décevez beaucoup.
Oui, mais c'est la fille à Ben.
C'est exactement ça.
Ouais,
c'est la fille à Ben.
Nom, mais
la fille à Ben qui s'appelait... La fille à Ben.
Ouais, la fille à Ben. Ouais. Voilà.
Et là, elle a un rôle intéressant parce qu'elle joue, c'est un petit peu spoiler, mais bon, son rôle n'est pas principal non plus. Elle joue une prostituée, voire une escorte, qui est très olé olé, enfin, pour le coup, et avec des décolletés, etc.
Il vaut mieux, hein,
c'est le principe.
Genre de métier.
Mais ça fait un peu bizarre de la voir.
Non, je ne couche pas le premier soir. Jamais.
Non, mais
je fais des bisous sur la joue seulement.
Dans les tenues, je voulais dire.
D'accord.
Et pour le coup, ça fait bizarre de la voir, celle qu'on a connue adolescente, de voir dans un rôle comme ça. Elle a bien grandi, etc.
Donc, et tu en as vu combien jusqu'à présent ?
J'ai vu que le pilote.
Que le pilote.
Et c'est le rythme est lent. C'est mon problème avec ce pilote, en tout cas. Le rythme est vraiment un peu lent, mais il y a une bonne intrigue qui se met en place. Et un gros casting, donc, à surveiller éventuellement. Okay. J'irai un peu plus loin pour voir.
Ouais, tu me tiens
donc,
au courant.
Voilà. J'ai vu d'autres pilotes dont on parlera d'autres fois.
D'autres fois, oui.
Notamment sur Amazon, où je me suis un petit peu lancé là-dedans. Il y a des choses intéressantes, originales en tout cas.
Oui, il y a une série qui me branche bien, ça serait Jean-Claude Van Johnson, qui est une série avec Jean-Claude Van Damme dans laquelle il devient agent secret.
Il aurait pu changer son nom quand même. Jean-Claude Van Johnson.
En fait, voilà.
Oui, parce qu'il y a vengeance dans Van Johnson, quoi, c'est ça, non?
Bon, je sais pas. Enfin, bref. Mais
c'est comique.
Le trailer a l'air. Ça a l'air vraiment très très comique.
Comique assumé ou...
Oui, comique assumé. Absolument. Mais je pense que, comme pour Netflix, il y a des différences entre les différents pays au niveau d'Amazon Prime. Je pense qu'en France, on n'a peut-être pas forcément la même offre qu'aux États-Unis.
Non, en fait, moi, je me suis abonné, entre guillemets, à Amazon Prime parce que je voulais voir un pilote en particulier qui est tout nouveau, qui n'est pas encore commandé en série, qui s'appelle The Marvelous Mrs. Maisel.
Wow.
Qui, c'est un bon.
Et tu ne l'as pas vu.
Et je ne l'ai pas vu parce qu'il est limite, il est bloqué
par pays.
Voilà, par pays. Ouais, donc, je n'ai pas encore fait le nécessaire pour voir ça. Mais c'est un pilote qui a l'air vraiment sympa. Bon, il faut aimer le genre. C'est par la créatrice de Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino, donc ça promet des dialogues assez pointus, et c'est avec, je crois que son prénom c'est Rachel Brosnahan, qu'on a vu dans House of Cards, et dans The Blacklist, qui est une actrice que j'apprécie particulièrement. Alors elle est très jolie, ok, mais elle est aussi très douée.
Okay.
Donc à surveiller, j'ai très envie de le voir, donc si quelqu'un d'ailleurs l'a sous la main. Voilà, l'appel est lancé. Et à ça, il y a Oasis qui a été regardé par Russell, une série de science-fiction qu'il faudrait qu'on teste aussi, dès qu'on peut.
D'accord.
Qui a l'air potentiellement intéressante.
Oasis, sur Amazon aussi.
Ouais. Rien à voir avec la boisson. Hein,
ouais. Ou le groupe.
Because maybe. Et c'est l'heure de mon actualité. Alors, je reviens en quelque sorte à peine du ciné et je suis allé voir Kong Skull Island. Donc, c'est un film qui parle. Vous en serez douté, de King Kong.
Ah, c'est pas bon. Le jeu vidéo C'est pas Donkey Kong.
Ce n'est pas Donkey Kong, non. Il n'y a pas
c'est
de
pas
banane.
Monkey Island non
y a,
plus, non
y a, Non plus. Il n'y a pas de banane, il n'y a pas de tonneau. Mais en fait, ce film...
Il y a des cartes, au moins.
Ce film, il n'y a même pas... Ouais, non, il y a des photos satellites.
D'accord.
Non, ce film est intéressant et particulier parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez du Godzilla de Gareth Evans qui est sorti en 2013. Mm-hmm. Et bien en fait, ils ont l'intention de créer un cinématique universe
de monstres,
monstres géants.
J'en étais sûr.
Donc voilà, et tout cela va finir avec un affrontement qui va très probablement rassembler donc au moins Godzilla et King Kong. Mais si vous êtes familier de l'univers des kaiju japonais, vous savez qu'il y a d'autres grands noms qui vont se mélanger dans ce gros joyeux bordel de baston. Donc au niveau de...
Ça peut être sympa.
Ça peut être très sympa parce que le Godzilla de Gareth Edwards était très très cool. Moi, c'était un film que j'avais vraiment beaucoup aimé.
C'était pas mal. J'ai des réserves quand même. Il y a des trucs qui m'ont déplu et il y a des trucs qui étaient plutôt pas mal.
Non, moi ce que j'avais bien aimé dans le Godzilla, c'était ce rapport de force que réussissait à bien montrer le réalisateur, enfin, notamment dans les affrontements entre les différents monstres qu'il pouvait y avoir. Il a une façon de filmer qui te fait te sentir vraiment tout petit.
Oui, oui, ça c'était chouette. Mais je me rappelle rien que le trailer, moi j'avais adoré le premier trailer de Godzilla, où on voyait ces énormes nuages et puis les militaires qui sautaient, et juste cette traînée de lumière rouge de leur fumigène.
C'est ça.
Qui se réverbérait sur le dos d'une énorme bête qu'on voyait pas encore, ou alors même la vue interne à leur masque où on voyait que à travers les petits hublots des lunettes protectrices. Ça c'était génial, vraiment c'était super. Mais bon, tout le film n'est pas comme ça non plus, quoi.
Non, il y a des passages un petit peu longs, c'est
ouais sûr. Ouais, le début, enfin bon. C'est vraiment un film en deux parties, quoi. Ouais. Tu suis deux parties différentes, la vision du père et puis après la vision du fils.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé tout ça un petit peu maladroit. J'aurais préféré quelque chose de très centré que sur la famille ou que sur Godzilla, mais pas un peu de tout, quoi. Mm. Donc bon, après...
c'est compliqué parce que c'était quand même sympa. Ça reste un film hollywoodien, quoi. Il y a des grands standards à faire, quoi, à respecter. Mais bon, en ce qui concerne Kong, donc rapidement au niveau de l'histoire, donc elle se déroule en 1973, au sortir de la guerre du Vietnam. Donc c'est un postulat de départ intéressant parce que ça va permettre de développer des thématiques antimilitaristes ou de motiver les actions de certains personnages. Donc on y suit John Goodman qui fait partie de l'organisation Monarch qu'on a déjà vu dans Godzilla, en fait, qui désire se rendre sur une île perdue dans le Pacifique, qui n'apparaît sur aucune carte, qui n'a jamais été découverte. Et du coup, pour ça, il va engager Samuel L. Jackson, qui est un colonel de l'armée américaine, qui est sur le départ suite donc à la fin du conflit au Vietnam, et qui est ravi avec ses hommes d'avoir enfin une dernière étincelle d'action. Et ils vont être accompagnés du coup de Tom Hiddleston, qui joue un tracker de grosses bestioles, et Brie Larson qui est photojournaliste. Alors, si le Godzilla se tenait relativement bien de bout en bout, arrivait à rester sérieux, sans trop partir dans n'importe quoi, là, c'est pas du tout le cas de Kong. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont extrêmement nanardesques. Samuel L. Jackson est une caricature de lui-même.
Plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est ça. C'est des punchlines, quoi. C'est... le personnage que tu prends dans ton film pour lancer des punchlines à la Samuel L. Jackson, quoi.
Voilà, mais il y a des passages qui sont proprement ridicules. Je veux pas trop en spoiler, mais bon, à un moment, il reprend limite le passage de la Bible qu'il prononce dans Pulp Fiction, par exemple, quasiment à l'identique, bon, un petit peu transformé. Il y a pas mal d'autres scènes. Bon, il joue le militaire badass qui en impose. Il est doué
le
pour
cliché
ça.
Un petit peu, quoi. Un cliché.
Ah, c'est un cliché sur pattes. À part ça, ben, les décors sont très jolis. Ils ont tourné au Vietnam, ça se voit, c'est très sympa. Et ben, il y a énormément de fonds verts. Au niveau des affrontements, bon, on en a pour notre argent. On prend, voilà, c'est plutôt cool. Mais à côté de ça, il y a des passages qui sont débiles. Par exemple, on a John C. Reilly, je ne sais pas si vous voyez cet acteur.
Oui, tout à fait.
Ouais, Scrubs. Donc,
voilà, qui se balade.
Scrubs, c'est ça, hein.
Il est dans Scrubs, lui.
Oui. C'est quand même. C'est pas Dr. Perry dans Scrubs?
Non.
Ah non, non, non. Non,
ah, non,
c'est,
non.
Non, c'est pas le même.
Non, c'est un des gars de la bande à James Franco et Seth Rogen, là, non?
Moi, je dirais surtout qu'il a beaucoup joué avec Paul Thomas Anderson. Ah non, il a joué dans Boogie Nights, il a joué dans Magnolia. Ouais,
Mais je vois sa tranche, je l'ai vu dans la...
C'est un éternel second rôle du cinéma américain. Et donc voilà, il joue le rôle d'un militaire perdu sur cette île depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
qui se balade
avec un katana et qui tue des bestioles avec un katana. Donc John C. Reilly avec un katana à la main,
on le voit dans la bande-annonce. Effectivement, je suis à côté. Il est plutôt marrant dans la bande-annonce d'ailleurs.
Oui, dans le film aussi, il est très marrant, quoi. Mais
c'est l'élément comique.
C'est l'élément comique. Okay. Mais bon, voilà. Donc, si vous avez une carte illimitée ou si vous voulez profiter du printemps du cinéma, de ce genre d'événement, c'est un bon plan. Après, dépenser 11€ pour voir ce film qui est parfois un peu nanardesque, bon, je sais pas si je peux vraiment le recommander. Ouais. Mais c'est rigolo, quoi.
Un
bon divertissement sans plus. C'est un divertissement sans plus.
Ça annonce quand même peut-être un univers. Donc mélangé de tous ces films, pas si flambant que ça. Voilà. C'est déjà ce deuxième film de cet univers et pas.
Honnêtement, si vous aimez le destruction porn, ça peut être très cool.
Ouais. Ouais, mais par exemple, je sais pas, on peut faire un tout vite fait parallèle avec ce même genre de film de.
Pacific Rim.
Exactement. Ah, Pacific Rift ou Rim ou Rift.
Rim.
Qui lui, pour le coup, avait bien fait le boulot aussi. Moi,
j'étais pas fan du tout. Moi, Pacific Rim, je l'ai trouvé ridicule très souvent. Notamment dans l'actrice en question. Et c'est
oui,
bien.
Non, ça.
On parlera tout à l'heure des héroïnes dans les films. Cette actrice était insupportable. On parlera aussi tout à l'heure d'Iron Fist, où il y a une actrice qui a l'air de toucher en arts martiaux. Et c'était le cas de l'actrice de Pacific Rim. Sauf que derrière, le jeu ne suivait du tout. Il y avait des dialogues immondes. Le pauvre Idris Elba, qui est un de mes acteurs préférés, il se tape un discours.
Il se tape le discours le plus épique depuis celui du président Bill Pullman
dans Independence Day.
Suis désolé.
Épique, c'est pas le mot que j'aurais employé. Mais
si, c'est épique. Ah non.
Enfin, moi, j'ai pas apprécié, apprécié Pacific Rim. Et pourtant, le concept...
J'adore ce film. J'aime tellement ce film.
Bon, quoi qu'il en soit, c'est un autre débat.
Oui, c'est juste pour faire un parallèle que ça a déjà été fait de par le passé, des bons films comme ça. Après, tous les avis divergent, mais...
Donc voilà, bon, Kong Skull Island, rigolo, nanardesque, à voir pour des barres de rire.
Ouais.
Après, bon... voilà.
Ça doit être un bon divertissement.
C'est un bon
divertissement. Faut pas s'attendre à plus, peut-être.
Je regarderai pareil que ce que j'ai vu Godzilla. C'est-à-dire juste pour les 2 heures qui va me faire passer.
Exactement. Ouais. Et il faut rester à la fin après le générique.
D'accord.
Voilà.
Oui, de toute façon, là maintenant, ça va être le cas avec un univers à eux. Ouais. Okay.
Du coup, Metal Neo.
Du coup, on va rester un peu dans cet univers de films. Moi, j'ai pas vu de film ou quoi que ce soit, mais je voulais parler juste de quelques nouveaux trailers qui sont sortis ces derniers temps. Plus ou moins vieux, pas très très vieux, mais des choses qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de dire récemment. Donc déjà, je voulais aborder un qui était plus ou moins vieux. C'était un trailer de Deadpool 2, sûr.
Le teaser
trailer. Pas du tout un trailer, je pense que c'est plus... Un petit teaser pour dire bon, vous inquiétez pas, on est dessus, on travaille dessus,
voilà,
et prendre l'occasion aussi de communiquer sur ça en même temps que Logan, parce que aux États-Unis ce teaser passait juste avant le film Logan. Moi, j'ai vachement apprécié ce teaser, je trouve qu'il est énormément rempli d'humour, d'humour à la Deadpool. Ça reste toujours je pense que c'est de la réassurance pour se dire ok, pour le moment Deadpool reste toujours dans cette lignée. Le personnage est toujours le même et la satire est toujours la même aussi. Je sais pas si vous l'aurez vu, mais il y a énormément de petits clins d'œil dedans. Il y en a plein. Il y a des jokes sur Logan. Il y a des blagues sur les X-Men aussi. Des trucs cachés, des graffitis. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Et puis voilà, le personnage en lui-même aussi. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais pas spoiler. Mais allez le regarder si vous avez bien aimé Deadpool. Moi, je trouve que ça reste très fidèle à l'univers. Et voilà, si le film ne serait-ce qu'un peu ressemble à ce teaser, je pense qu'on aura un très bon deuxième film.
Ça va être bien.
Voilà.
Ça m'a donné envie.
Moi aussi, ça m'a
hypé.
Enfin, ça va me permettre d'attendre le prochain film, quoi. Mais j'espère en voir bientôt plus. Donc voilà, ça c'était le premier teaser dont je voulais parler. Et le deuxième surtout dont je voulais parler, c'est la bande-annonce de American Gods qui est sortie cette semaine, la vraie bande-annonce.
Oui.
Même si la première, qui était juste une première impression, durait quand même bien 1 minute 30 ou 2 minutes. Celle-là était un petit peu plus longue et un petit peu plus représentative, je pense, de la série. Que dire? Moi, j'apprécie le look. Ça a l'air joli. Dans ce trailer, il y a l'air déjà d'avoir quelques éléments. Ça a l'air très réel. Mais en même temps, il y a quelques plans, quelques fois, qui font très fantastique. Donc ça éveille un peu ma curiosité à moi. Parce que moi, c'est ce que j'aime bien, tout ce côté fantastique et un peu hors de notre quotidien. Mais en même temps, voilà, ça a cette dimension un peu très réelle et très ancrée dans du drame. Je trouve que ça avait un peu un look à la... comment ça s'appelle, cette série
Qui parle de quoi?
La troisième saison, celle que tu aimes beaucoup... je me souviens plus.
Penny Dreadful.
Non, une autre. Les gens qui ont disparu et qui reviennent.
Leftovers.
Leftovers. Je trouve qu'il y a un côté.
Je ne l'ai pas vraiment vu, mais c'est effectivement un très beau compliment parce que le Leftovers, d'ailleurs, il faudra qu'on en parle quand ça reviendra parce que c'est juste une série énorme.
Je ne fais pas un gros parallèle entre les deux. Je dis juste qu'à la manière d'un Leftovers qui fait.
Qui posait une ambiance.
Qui posait une ambiance et qui faisait très, très réel alors que ça parlait d'un sujet un peu paranormal, mais ça le traitait dans un contexte et un sujet très, on va dire, basique et contemporain. Bon, là, j'ai eu cette impression un petit peu aussi avec le trailer. Il y a les quelques images un peu spéciales.
Je pense qu'il y a quand même des bons morceaux, pas mal d'images qui plongent dans le fantastique.
Ouais.
Et que le fantastique aura une place importante. On le voit dans la variété, dans les looks des personnages qui ont l'air de tous avoir vraiment une identité particulière. En tout cas, ces personnages qui sont... a priori des espèces de dieux. J'ai été conquis par la bande-annonce également.
Ouais.
C'est beau.
Bon, après, j'ai une autre réserve, mais après, elle est plus personnelle pour moi.
Dis-moi.
J'ai trouvé cette bande-annonce, et donc, je pense que cette série le sera. Je pense que ça va être extrêmement violent. Il y a quelques plans dans cette bande-annonce déjà que je trouve extrêmement violents.
C'est vrai.
C'est des effusions de sang, des membres coupés, mais c'est pas autant là un Game of Thrones. Des fois, je trouve ça assez violent. Là, je trouve que c'est même un poil au-dessus. Quoi.
Je n'irai pas jusque là quand même.
Après, regarde, il y a vraiment des
peut-être
trucs
sanglants à la limite. Mais...
Ah non, c'est il y a regarde, il y a quelques plans honnêtement.
Oui, effectivement, il y a des plans un peu marqués, mais personnellement, je peux comprendre que la violence. Pour la violence, en tout cas. Bon, c'est tout un autre débat. Il faudrait parler de Walking Dead, etc. On ne va pas se lancer là-dedans. En tout cas, moi, ça ne m'a pas franchement choqué et ça m'a bien hypé, hein, comme on dit de nos jours. Et le casting, rêver.
Le casting a l'air super.
En plus, on n'a pas vu. Il y a Gillian Anderson dedans. Il y a plein de gens qu'on n'a pas encore vus. Christine Chenoweth, elle est excellente. Ouais, elle est géniale. Ouais. Ian McShane, on retombe tout le temps sur Deadwood.
On retombe souvent sur Deadwood.
A priori, en ce moment.
C'est pas qu'en ce moment. Je pense que tous les acteurs de Deadwood, ils ont une belle carrière derrière, bizarrement.
Je voulais juste préciser ça, pas de façon négative pour dire que ce sera un point noir. C'est juste que ma sensibilité à moi fait que si ça devient vraiment extrêmement violent,
de décrocher.
Ouais, ou je risque de pas y prendre autant de plaisir parce que pourtant, ce que la bande-annonce me donne, ça m'intéresse énormément, le concept et tout ça. Après, voilà, moi, je risque d'être un petit peu dérangé par ça, parce que, au bout d'un moment, je ne sais pas ce que je recherche dans les séries. Voilà, par exemple, un Preacher, c'était violent, mais ça restait violent de l'ordre de l'acceptable pour moi. Là, j'ai peur que ça aille au-delà de ce que moi, je suis capable d'attendre d'une série.
C'est dur à dire.
Mais je l'attends toujours
avec
impatience.
Et dans tous les cas, je pense qu'on se laissera tous tenter par le pilote.
Mais ça, c'est absolument une évidence. Je regarderai avant de juger.
Ma crainte vis-à-vis de cette série, et c'est vraiment la seule... C'est Stars, ça passe sur Stars. Je pense que ce ne sera pas forcément le même budget que sur une autre chaîne. Stars, ils font des choses parfois bonnes, mais ils font aussi des choses que je trouve un peu en dessous, en termes de production notamment.
Ouais.
Là, pour le coup, il y a un casting, il y a des noms derrière.
Leur épingle qui sort du jeu, où ils se disent, là, on va tout miser sur celle-là, à la manière
J'espère que c'est ça, et j'espère que... Je doute aussi, je suis pas sûr aussi que ça trouve vraiment une audience.
Un public,
mais en même temps, Stars, ils ont pas besoin des milliers et des milliers de téléspectateurs.
Il faut se dire qu'on est dans une ère maintenant où les chaînes ont de plus en plus de facilité à adapter des comics. On regarde, il y a Outcast, Walking Dead, Preacher.
Là, c'est un roman. Hein.
C'est un roman, ça ?
Ouais, c'est un roman. C'est un roman de Neil Gaiman, je sais pas comment on dit.
Mais
qui lui fait
des
comics. Il a fait Sandman, que Eddie Boy connaît bien.
Donc, c'est juste pour dire que ce genre d'univers et ce genre d'histoire a de plus en plus sa place dans les séries et dans les différentes chaînes de télé. Donc.
Ouais. C'est un peu dommage ce mode des adaptations, mais là, pour le coup, je pense que c'est un très bon roman et que derrière il y a Brian Fuller qui va faire du très bon boulot. Donc
vu les noms,
je suis très confiant et j'ai beaucoup d'attentes par contre.
Ouais, moi mon attente à moi, voilà, c'est comme j'ai dit, ce sera juste de voir est-ce que ça continuera à me plaire et que ce sera pas trop violent. Mais voilà, et je veux juste mentionner un dernier trailer, on va pas épiloguer dessus, mais c'est Baby Driver, film de Edgar Wright. J'ai regardé la bande-annonce l'autre jour et c'est assez explosif, ça va vite, c'est on dirait du Drive. Ça a l'air d'être fun, super casting encore une fois. Là, il y a vraiment du beau monde.
Oui.
Entre il y a Jamie Foxx, Kevin Spacey, John Bertal,
Ansel Elgort,
voilà, il y a vraiment, il y a vraiment du beau monde. Il y a Flea des Red Hot Chili Peppers aussi. Enfin,
ah, j'avais pas fait attention.
Ouais,
à la bande,
il fait une petite caméo. Enfin, voilà, ça a l'air bourré d'humour, bourré d'action, bourré de scènes de vitesse, de voiture. Mm-hmm.
Et la musique aussi.
Et la musique, ça a l'air chouette. Donc, génial. Je pense que ça va être une bonne tranche d'action fun, un peu à la Mad Max Fury Road ou à la Drive. Un truc qui va aller à 2000 à l'heure. Et, donc voilà, à surveiller. Je sais pas quand est-ce que ça sort.
Ça sort en août.
En août, voilà.
Ça sort
donc,
en août et voilà. Petit blog.
Voilà, je voulais juste le mentionner. Si jamais personne l'a encore vu, je vous conseille.
On mettra les liens des bandes annonces dans le post.
Pourquoi
parce
pas
qu'on va d'ailleurs parler d'autres bandes annonces un peu plus tard.
N'hésitez pas.
Donc voilà. Du coup, on peut enchaîner sur les plats de résistance.
Sur le plat de résistance, on va commencer du coup avec Snatch, l'adaptation britannique du film de Guy Ritchie. Enfin, oui, c'est une série britannique, je crois.
Oui,
c'est pas britannique.
C'est britannique, mais alors ça va être une coproduction, comme ça se fait souvent. Ça passe sur Crackle, qui est une sorte de Netflix bis beaucoup moins connu, mais qui commence un petit peu à développer sa série originale.
Un truc comme ça, non ? Comment ça s'appelle ? Toutes ces nouvelles chaînes un peu sur Internet
Ouais, c'est un petit peu ça. Bon, pour le coup, Crackle, on n'en entend pas trop parler, mais ils ont deux, trois trucs intéressants à surveiller, on va dire. Et là, ils ont choisi d'adapter Snatch, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi.
Ça dépend.
Ça dépend. C'est un film qui est culte pour beaucoup de monde, hein, avec Brad Pitt dans un rôle comme on les aime, etc., entre autres. Là, on retrouve Luc Pascalino de Skins. On retrouve
Rupert Grint d'Harry Potter,
le producteur exécutif d'ailleurs.
Ron Weasley.
Ron Weasley. Et il y a celui qui joue le père, dont j'ai oublié le nom, mais qu'on a vu dans toutes les séries qui peuvent exister, qui jouait dans Fear the Walking Dead.
Comment il s'appelle?
C'est un acteur anglais aussi. On va retrouver son nom, mais voilà. Et il y a aussi Mark Warren, qui jouait dans The Hustle, qui est un acteur anglais avec une tête marquante et très, très charismatique, qu'on n'a pas vu là dans le pilote, mais qui joue dans The Hustle. Et justement, cette version de Snatch m'a fait penser à The Hustle, où c'est beaucoup basé sur les arnaques, très rythmé, avec une réa un petit peu tape à l'œil. Pas forcément dans le mauvais sens du terme, en tout cas moi j'ai trouvé ce pilote assez sympa, pas exceptionnel, il n'y a pas tous les éléments du Snatch, du film Snatch, mais divertissant et intéressant et plutôt réussi, même si je sais pas si ça va me convaincre sur toute une saison. Pour le coup, j'ai bien aimé,
je l'ai regardé hier soir. Je dois dire que je l'ai regardé avec un a priori au départ, a priori étant que je commence à en avoir un peu marre des adaptations séries de films où le film vit très bien tout seul et n'a pas forcément besoin qu'on reprenne son histoire et qu'on la morcelle en 10 ou 12 épisodes pour raconter la même histoire ou pour développer un poil plus un personnage. Même si la plupart du temps c'est mauvais, autant faire un 2 pour moi.
Ouais. Pour le coup, c'est pas... Alors je me trompe peut-être parce que j'ai peu de souvenirs du film, enfin de l'histoire du film en tout cas. C'est pas la même histoire.
Non, voilà, mais c'est là où je veux
en
venir.
C'est le même univers, le même temps, la même ambiance.
J'ai commencé la série avec cet a priori de me dire pourquoi faire une série Snatch. Le film, et encore une fois, là, c'est un film tellement culte, avec une identité tellement forte, que je me dis la barre est assez élevée pour moi pour faire un produit de qualité. Comme tu dis, Travis, premier épisode est plutôt bien fait. Ça va, ça passe. Ça reste cohérent. Voilà, je suis pas emballé à 100%. Je saurais pas dire. Il y a des fois où ça essaye vraiment de copier Snatch, que ce soit dans la manière de Guy Ritchie de faire des plans rapides ou des présentations d'un personnage avec l'image qui descend ou l'image coupée en deux avec deux personnes de chaque côté.
Deux personnes différentes.
Enfin, voilà, ce truc. Après, avec un peu la musique, voilà. Ça essaye de copier, mais parfois un peu pas super assumé, parfois un peu assumé. Enfin, voilà, pour moi, c'était un peu maladroit. C'est soit on fait basiquement exactement comme Snatch, soit on le fait pas. Et on essaye de faire juste l'univers.
Je suis pas complètement d'accord. Je pense que c'était le fait qu'ils aient repris ce nom, un petit peu cette licence, c'était pour pouvoir exploiter un petit peu toutes ces
cordes. Oui, mais fais-le à fond dans tout l'épisode. Fais-le exactement comme Snatch.
Quand
tu
regardes Snatch, c'était pas comme ça à 100% du temps non plus.
Ouais, bref.
Ouais, pour moi, ça reste un. Pour ceux qui ont aimé Snatch, c'est à tenter.
Oui, c'est à tenter.
Sans pour autant espérer que ce soit aussi bien que l'original. Et encore, laissons le temps, ça c'est que le pilote.
Oui, moi je vais en regarder d'autres, hein, j'en ai vu qu'un seul.
Oui, pareil.
Je vais en regarder d'autres. Mais
il y a toute la saison qui est sortie, là encore, pour ceux qui veulent. Et je pense que voilà, ceux qui ont vraiment bien aimé cet univers, c'est côté un petit peu série anglaise aussi, avec ce casting. 100% anglais, qui est plutôt pas mal. Hein. Mmh. L'actrice, elle est plutôt sympa aussi, même si elle est encore une fois dans un rôle très classique pour les séries anglaises de ce genre-là. Hein. Il y a toujours une jolie fille qui vient un petit peu. Voilà. Et il y a d'autres choses qui m'ont fait rigoler, comme quand le roux d'Harry Potter, là, il rentre chez lui et il va voir son père et il entend sa mère copuler avec un autre. C'est un peu décalé, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça amusant.
Ouais, je sais pas, j'accroche pas encore. Ouais, même après un premier épisode qui est pas trop mal, j'ai pas encore accroché. Je vais en tester encore un ou deux, mais j'aime trop Snatch et pour le moment, pour moi, c'est pas à la hauteur. Même si ça ne se veut peut-être pas faire, parce que je sais même pas encore, je comprends pas si ça veut être les jeunes années de Snatch ou si c'est juste faisons le même concept
que
Snatch.
Je ne saurais pas te dire.
Moi non plus,
je
sais pas, je comprends pas trop où ça va.
Par contre, il y a une bonne surprise, c'est Ed Westwick qu'on a pu voir. Alors, je l'ai très peu vu là-dedans, mais dans Gossip Girl, qui est quand même, bon, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Il jouait un peu le beau gosse du coin, donc j'imagine, un peu méchant.
Ouais, Chuck Bass.
Chuck Bass, exactement. Ouais. On a un connaisseur de Gossip Girl.
J'ai lu les bouquins.
Oh là là, ça c'est un dossier qui vient de sortir là.
Un gros dossier, dossier qui vient de sortir.
À chaque fois pour te dire bonjour, on te dira XOXO ou
en fait,
quelque chose comme ça. Hein.
Voilà.
J'ai lu Gossip Girl.
On va changer, c'est pas Adiboy. Hein,
Choisis le terme, Adiboy quoi.
C'est Sissy Boy même.
Oh merde. Bref,
et pour le coup, Ed Westwick qui joue une espèce de mafieux cubain. Ouais. Un peu over the top comme on dit, mais un peu too much, mais ça passe bien et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je m'attendais au pire venant de lui, parce que là encore j'avais des a priori, hein, je suis désolé, mais je trouve qu'il vend bien le truc et que j'avais envie de voir plus de lui, alors qu'à la base j'étais plein de doutes, hein, vraiment sur lui, mais voilà. Donc une bonne surprise, et pour moi globalement la série est une bonne surprise avec un potentiel, même si je suis d'accord qu'il y a des choses à retravailler, à améliorer. Au niveau rythme, déjà c'est très satisfaisant. J'ai retrouvé un peu le rythme de Snatch.
Va.
Il y a 2-3 moments un petit peu lents et encore. Donc satisfaisant. Voilà.
Ok. Moi, comme d'habitude, je n'ai pas pu voir un seul épisode de cette série. Juste pour dire que moi j'aime beaucoup le film original Snatch. Ouais. Ça fait partie des films que Guy Ritchie a bien réussi avant de tomber dans une espèce de caricature de lui-même avec notamment ces techniques de ralenti, d'insert, de plan contre champ, enfin bref, qu'on peut retrouver dans les Sherlock Holmes. Snatch, ouais, c'est l'un des meilleurs rôles de Jason Statham aussi, faut pas l'oublier, mine de
peut-être
rien.
Même l'un des seuls, ouais.
Ouais, avec Arnaque, Crime et Botanique, c'est il était au top, ça, quoi. Ouais. Il était vraiment au top.
C'est un peu le même genre de film, la même ambiance.
Ça fait partie d'une.
Oui,
il y a une espèce de trilogie, en fait, qu'a réalisé
avec
Guy
Ritchie, aussi,
avec Rock'n'Rolla, ouais, qui peut être le troisième épisode. Ouais. Bon, ils se suivent pas, il y a aucun truc
aucun
en
lien,
rapport, mais l'ambiance, c'est les gangsters minables de Londres,
c'est
grosso
ça,
modo,
exactement,
et de sa banlieue. Donc voilà, j'ai pas encore vu Snatch, mais je pense que dans la série.
Regarde-le, hein, regarde-le.
Regarderai au moins le premier épisode.
Je pense que c'est intéressant quand on est fan de Snatch d'aller y faire un tour et de regarder ce que ça donne. Soit on y retrouve les codes de Snatch et donc ça peut être plaisant.
Soit
on n'y retrouve pas ce qu'on aimait dans Snatch et comme moi, pour le moment, on reste un peu sur sa fin.
Voilà.
Moi,
mais
j'ai retrouvé
c'est
petit
facile
peu
d'avoir un avis. Quoi.
De Shameless, la série anglaise, à la base anglaise qui a été adaptée aussi aux États-Unis. C'est sur une famille un petit peu trash et pauvre de la banlieue de Manchester. Ouais. Et là, il y avait un petit côté comme ça.
Oui.
Pas très développé, parce que c'est quand même un drama familial, oui, Shameless.
Shameless, ouais.
Mais c'est très bon, d'ailleurs. La version anglaise, était vraiment géniale. Et là, c'est un petit peu ce côté-là qui m'a plu, qui s'est un petit peu éloigné du film, pour
mais
le
c'est
coup.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que là, c'est quelque chose qui n'apparaît pas, qui à aucun moment apparaît dans le film, à part à la limite le côté fratrie des gitans. Mais, et encore, ouais. On ne s'attarde pas dessus. C'est les gitans et puis
c'est une adaptation. Pour moi, c'est une adaptation, je pense aussi
que c'est ça. Et c'est pour ça que je vais lui donner une deuxième chance, parce que je me dis que s'ils font ce choix-là, c'est qu'ils ont une histoire différente à raconter. Donc, je vais leur donner leur chance à ce niveau-là.
Okay.
Ça me rassure au moins qu'ils n'essayent pas juste de refaire le film en 10 épisodes.
Dites-nous si vous tentez aussi l'expérience Snatch, la série télé. C'est du coup...
une série que j'ai vue, que l'on a tous vue, et dont on va parler maintenant, peut-être pas entièrement, c'est Iron Fist. Donc, l'introduction en série du quatrième Defenders. Après donc Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones.
On va dire, c'est ça, c'est... même presque l'introduction aux Defenders.
D'un point de vue intrigue, on ne va pas rentrer dans les détails, mais d'après ce qu'on sait des comics, c'est plus, de toute façon, vu la logique de diffusion des séries, clairement, il devrait y avoir ce lien qui est fait avec l'intrigue des Defenders, au-delà du lien entre tous les personnages, qui est déjà clairement introduit depuis le début, personnage de Claire Temple, si je dis pas
tout à fait. Oui, la magnifique
Night Nurse.
L'actrice, comment elle s'appelle déjà ?
Rosario Dawson,
c'est ça. Voilà. Donc Iron Fist, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de Danny Rand, héritier d'une riche famille new-yorkaise, qui a disparu depuis 15 ans suite au crash de l'avion de ses parents, dans lequel il était, et donc qui revient... un beau jour à New York, sans chaussures, et qui se avec une belle barbe, et qui se ramène directement dans l'immeuble donc de la compagnie de ses parents pour y rencontrer le directeur général. De là va découler toute une intrigue qui va impliquer donc ses deux amis d'enfance, les enfants de l'ancien associé de son père, les enfants Mitchum, Ward et Joy. Nous allons avoir, comme l'a dit Travis, un rappel des autres Defenders avec l'introduction de plusieurs personnages qu'on a déjà vus dans les autres séries. Et grosso modo, l'Iron Fist, en fait, Danny, c'est pas spoilé puisque ça fait partie du personnage. Danny, pendant les 15 années qu'il a passé loin du monde, c'est...
On va pas dire où il était exactement.
Non, mais s'est entraîné, en fait, sous la tutelle de moines pour devenir un guerrier qui...
Un expert en arts martiaux.
S'appelle l'Iron Fist. Exactement. Et dont le but ultime est de détruire l'organisation de la main, dont on a déjà très souvent entendu parler.
Surtout dans Daredevil, exactement.
Dans Daredevil. Et donc, voilà.
Et aussi dans Luke Cage. Il y a
un petit passage.
Grosse partie, quand même, non, c'est pas dans Luke Cage qu'on en parle un peu aussi.
Pas de mémoire, mais bon.
Non, la main, c'est vraiment très, très raccroché à l'univers de Daredevil.
Notamment Elektra, etc.
Oui, il y a toute cette partie, mais je crois qu'il y a un moment, il y a une référence aussi.
Peut-être une référence.
Avec Madame Gao aussi, à un moment où elle apparaît.
C'est ça.
Bon, de toute façon, oui, effectivement, c'est Madame Gao qui est, pour l'instant, est la représentante,
on va dire, de la main à New York, voilà.
Et du coup, est-ce que c'est bien ?
Alors, du coup, est-ce que c'est bien ? J'avais entendu beaucoup de choses négatives sur la série, des reviews, notamment anglaises, qui avaient dit que, c'était arrivé, Netflix s'était cassé la gueule avec son adaptation d'un super-héros Marvel. Donc, je suis parti avec un a priori relativement négatif, et au final, il se trouve que j'ai plutôt bien aimé. C'est un bon divertissement pop-corn, je trouve. L'histoire est assez prenante, même si l'interprétation du héros est pas toujours au top. On a des fois envie de lui mettre des baffes.
Finn Jones de Game of Thrones.
On a eu beaucoup de critiques par rapport au fait qu'on ait choisi cet acteur, mais je trouve que il va plutôt bien. Rien d'extraordinaire, mais il fait le taf.
Ouais, ça va. Enfin, visuellement, il y a plein de monde qui était mécontent du fait que c'était un petit gringalet, pas hyper baraque, alors que
Iron Fist, quand on voit les
vrai, exactement le vrai Iron Fist, c'est un blondinet, il est pas extrêmement musclé, il est musclé à la Bruce Lee, mais c'est pas non plus une montagne de muscles. Donc visuellement, le personnage, je pense que ça collait. Après, l'interprétation, c'est vrai qu'elle est pas au top tout le temps.
Oui, mais ça va.
Mais bon, il y a rien, il y a rien d'alarmant non plus. C'est pas, pas de catastrophique.
Non, il y a rien de catastrophique.
Voilà. Ouais.
D'ailleurs, de son côté. Le reste du casting est plutôt, je trouve, pas mauvais.
Et plutôt, il est plutôt bon.
Jessica Stroup qui avait fait 90210, l'adaptation de Beverly Hills.
C'est Joy, ça. Hein, ouais.
C'est Joy, qui je mal. Trouve s'en sort plutôt pas mal. Ouais. Bon, elle, elle va pas avoir un Emmy, hein, on va pas se mentir, mais. Mais le, son frère Ward,
son frère
et ben figurez-vous que son frère il joue dans Banshee dont on a parlé dont certaines personnes réclament que vous regardiez Banshee.
C'est pas faux, ouais.
Donc voilà, et il était joué déjà un rôle un peu particulier, je vais pas rentrer dans les
mais moi il y a un
détails,
rôle que j'aime particulièrement, c'est surtout leur père aussi, hein.
Leur père est bien.
Oh, ouais, il y a vraiment un super charisme, quoi.
Comment il s'appelle
Faramir.
Faramir, oui. voilà, ouais, c'est
je me rappelle plus son nom.
Je sais plus comment il s'appelle cet acteur, mais oui, oui, non, leur père.
Donc
leur
lui,
père,
vraiment, ouais, cool. Très bonne prestance. À la fois un personnage qu'on a envie d'aimer, et à la fois un personnage détestable.
Détestable, ouais. Il joue bien l'ambivalence.
Vraiment,
il joue
vraiment
bien l'ambivalence. Bon, le personnage, je pense, sur lequel on va se mettre d'accord pour dire qu'il est pas terrible, je crois que c'est celui de Colin.
Ah ben, je sais pas si Travis sera de ton
avis.
Non,
je m'attendais à justement à une actrice à la Pacific Rim dont je parlais tout à l'heure.
Ouais.
C'est-à-dire qui sait bien se battre. Et là, pour le coup, elle sait très bien se battre. Je pense même mieux que Finn Jones.
Il y a des chances. Ouais.
Ouais. Elle est pas, c'est pas une grande actrice de ce qu'elle montre là. Mais elle vend bien le personnage, je trouve le personnage attachant. Elle n'a pas hérité des meilleures intrigues. Hein, y a une partie qu'on ne va pas révéler, parce que c'est spoiler, mais qui est concentrée un petit peu que sur elle, où elle va faire des choses pour...
Oui,
tout à fait.
Et bon, ce n'était pas passionnant, mais du coup, j'ai été agréablement surpris par son jeu d'actrice, qui n'est pas exceptionnel, mais qui passe bien, et par ses compétences en arts martiaux, qui sont bien meilleures que Finn Jones, qui... Par moment, bon, les premières scènes de combat, quand, les toutes premières du pilote, c'est franchement, c'est, on dirait du ballet plus qu'autre chose. Quoi.
À l'époque peu, on a un Daredevil où les scènes d'action sont juste ahurissantes, elles sont vraiment géniales. Elles sont rapides et tu sens qu'elles sont pleines de punch. Là, j'ai l'impression que les scènes de combat sont lentes. C'est
exactement ce que j'ai dit dans la notation. C'est un pas dans le mauvais sens par rapport à Daredevil en termes de scène de combat.
Exactement. Et moi, en fait, voilà, moi, mon ressenti, parce que là, pour le moment, il y a juste Addy Boy qui a plus ou moins donné son avis en disant que tu avais bien aimé. C'est mon cas aussi. Basiquement, j'en suis à peu près à l'épisode 7, donc je dois être à mi-saison. J'apprécie, je trouve ça bien. Maintenant, c'est vrai que c'est en deçà de ce qu'on pourrait un peu attendre. De quelque chose qui est clairement basé sur de l'art martial. Là où un Daredevil, c'était un peu de combat de rue et d'intrigue, d'avocat, de machin quoi, ça s'en sort mieux que Iron Fist. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir un peu cette copie de Daredevil où on est entre le combat et des scènes, là, qui ne sont pas forcément des scènes d'avocats, mais c'est un peu pareil, des scènes de multinationales.
C'est vrai
qu'il
y a un petit peu trop de scènes sur le frère et la sœur, Joy et
les intrigues.
On a l'impression que c'est souvent basé que sur ça.
Ouais, c'est un petit peu dommage, mais globalement, mon avis à moi, c'est que c'est comme Luke Cage et Jessica Jones, c'est moyen, mais c'est un petit peu fade.
Ouais, mais je comprends, mais je trouve que... Luke Cage et Jessica Jones, eux, avaient leur propre univers différent que Iron Fist n'a pas.
Ils ont des ambiances plus marquées. Et en même temps, je me suis dit, j'ai eu la même réflexion que toi, je me suis dit, est-ce que c'est pas lié au quartier ? C'est toujours un petit peu des quartiers dans Daredevil.
Oui.
Il y a Hell's Kitchen.
C'est plus ou moins le Bronx pour Luke Cage.
Et Jessica Jones, elle en a un, mais en tout cas, elle a bien son ambiance à elle. Mm. Et là, c'est de l'Upper Manhattan un peu bourgeois, enfin, clairement bourgeois.
Oui, totalement.
Et ça manque un peu d'identité, et du coup, il n'y a pas vraiment une ambiance marquée comme les autres séries, mais pour moi ça reste quand même un petit peu les trois dernières restent un petit peu fades, il manque un petit quelque chose
peut-être
en termes d'intrigue notamment.
Je le ressens pas autant, mais je le commence à le ressentir là vraiment avec Iron Fist. Là, je suis d'accord.
C'est probablement plus marqué sur Iron Fist, même si on n'a pas tout vu, on en est au 5 ou 6. Voilà, je suis un peu déçu et j'attends un peu mieux.
Moi aussi.
Je vais juste mentionner rapidement les avis sur le site où il y a un peu deux écoles, mais qui sont proches, c'est soit du 12, soit du 14.
Ouais.
En gros, il y a Liam V qui a mis 14 et Van Lane qui a mis 14, mais sinon, c'est 12 pour Jinx et Oulé 75. Et moi, j'avais mis 12 aussi, donc c'est mitigé. Et les avis un petit peu suivants n'ont pas l'air beaucoup mieux. Donc, c'est bien, mais c'est pas vraiment ce à quoi les gens s'attendaient, ou du moins ce qu'ils espéraient. Et je pense qu'on est un petit peu tous dans le même cas.
On a pris une grosse baffe en pleine gueule avec Daredevil.
C'est ça.
Ouais. Du coup, on s'est peut-être dit que
l'attente est un peu trop élevée, mais
ouais.
Mais là d'un autre côté, comme on disait, pour moi, ça reste un peu une copie de Daredevil. Là où ça aurait dû essayer d'aller plus loin, se basant sur un univers qui est le même, c'est-à-dire de la baston. Ça aurait dû aller plus
loin. La mythologie est sympa quand même.
La mythologie est sympa. Et pour le moment, pas encore assez exploité. Hein. On verra sur la fin de saison, mais pour moi, pas encore assez. Hein.
J'ai mis une grosse réserve sur ça parce que je trouve que c'est. Je trouve ça un peu ridicule en fait. Hein. Chaque fois qu'on l'entend parler de ce lore un petit peu kung-fu mystique, j'avais beaucoup de mal.
Je le trouve pas excellent déjà dans la façon de vendre cette partie-là.
Oui.
Et je trouve aussi qu'il n'est pas aidé par les dialogues sur cette partie-là, notamment.
Souvent, on a plus l'impression, plutôt que de voir un gars de 30 ou 32 ans ou quoi, on a plutôt l'impression de voir un gars de 16 ans ou de 14 ans.
Le personnage est censé avoir 25 ans.
Oui.
25
Il est parti à 10 ans,
oui,
ça fait 15 ans.
Ça fait 15 ans qu'il est parti, il avait 10 ans dans l'avion quand il
avait 10 ans, donc il en a 25.
Mais bon, ce qui lui est arrivé peut expliquer aussi qu'il est un petit peu cette... Alors, je ne sais pas si ça faisait partie du comics à la base. Ça me choque pas vraiment, mais ce qui m'embête, c'est effectivement les faiblesses des dialogues et cette partie-là est pas encore bien vendue. Je pense, en tout cas j'espère, qu'il y a une mythologie qui est intéressante. C'est ce qui pourrait sauver un petit peu cette série, la rendre un petit peu presque équivalente à du Jessica Jones, qui elle avait pour le coup quand même une bonne intrigue.
Ah oui,
et
totalement.
Presque un très bon méchant.
Ouais.
Là, pour Iron Fist... J'attends de voir un vrai méchant.
C'est pour ça. Je ne parle vraiment pas en termes de ce que j'ai vu par rapport à la série. Aucun spoil. C'est vraiment juste un avis à moi, qui est l'avis de dire que cette saison, pour moi, va être celle où on va, à un moment ou à un autre, savoir, si ce n'est savoir qui est la main, savoir que c'est lui qui va être l'objet principal de réunion des 4 Defenders de la prochaine saison pour essayer de le trouver, de le défoncer. Quoi. Pour moi, c'est clairement
On va terminer là-dessus avec la prochaine saison, du moins la saison des Defenders, qui sera Sigourney Weaver.
Oui.
Rien que ça.
C'est vrai.
Ça devrait être plutôt sympa.
Prévu pour quand, 2018 ?
Non, normalement cette année. Hein.
Ils
ont déjà tourné, je crois. Hein. Je pense que c'est cet été.
J'ai vu des images de production.
Je pense que c'est un tournage en ce moment, peut-être en post-prod maintenant, mais bon, on verra bien. On mettra la date si on l'a, mais je suis pas sûr qu'on l'ait parce que Netflix donne ses dates par groupe et là pour le coup.
Donc pour conclure, Iron Fist.
Attendez si vous avez vu les trois premières.
Voilà. Bien, mais pas top, un peu fade, vraiment pas au niveau de Daredevil, mais qui peut se regarder quand même. Un divertissement un peu popcorn. Moi, ça a été le cas, par exemple, ça a été la série que j'ai mis en fond pendant que je faisais autre chose sur mon PC, pendant que je montais des Lego.
C'est pas un grand drama, c'est pas un grand drama. C'est pas assez haletant, il manque un petit quelque chose pour l'instant, mais on en est qu'à l'épisode 5-6.
On aura tout vu. On fera un deuxième débriefing, peut-être quand on
pourra
se mettre d'accord.
Ou peut-être faire un épisode totalement spoiler une fois qu'elle aura bien...
Du coup, ça va être l'heure de la dernière partie. Et donc, je vous ai annoncé une thématique Girl Power.
Alors, on va parler des Spice Girls ?
On va pas parler des Spice Girls.
Pourtant, leur film
mais...
est bien. Hein.
Non. Non, c'est pas foufou. Non, on va parler du fait que sont annoncés au cinéma pour l'année 2017 plusieurs films qui mettent en scène des héroïnes féminines badass.
Trois en particulier.
Donc,
On va commencer par le plus évident, le plus récent.
Celui qui va sortir très bientôt. Donc nous avons Ghost in the Shell avec Madame Scarlett Johansson, la femme la plus belle du monde pour la plupart des gens.
Beaucoup de monde.
Enfin, deux tiers de ce canapé.
Au moins deux tiers. Donc l'adaptation du manga culte qui avait déjà fait l'objet d'un film d'animation en 97.
Dont les bandes annonces sont plutôt prometteuses, mais pas forcément une garantie de la qualité du produit final.
C'est ça.
Faudra voir. Après, on donnera nos avis. Mais
les Américains qui adaptent un produit japonais, c'est toujours
risqué. Il y a eu tout un débat sur le fait qu'elle n'était pas asiatique, etc.
Oui. Bon, ça. Débat, non débat, bref.
Ouais, on verra, il faut juger la qualité du produit final, mais on va en tout cas dire celle qu'on attend le plus éventuellement. Et on va passer aux deux autres.
Aux deux autres, donc.
Une qui est passée un petit peu inaperçue.
Absolument. Donc, c'est un trailer qui nous a mis la puce à l'oreille. Donc, pour le film Atomic Blonde avec Charlize Theron, qui peut prétendre elle aussi au titre de plus belle femme du monde, en fait.
C'est un beau débat qu'il faudrait faire.
c'est un débat qui trouve son intérêt. Donc,
on peut aussi mentionner James McAvoy.
McAvoy, oui. James McAvoy,
que j'aime
dans
beaucoup.
Le film.
Shameless, d'ailleurs, il a commencé
donc,
plus
si
ou moins dans
Shameless. Si je ne me trompe pas, je crois bien que c'est l'adaptation d'un livre ou d'une nouvelle qui se déroule pendant la guerre froide et qui voit donc le personnage de Charlize Theron, qui incarne une espionne, recevoir une mission de la part de l'agence de renseignement américaine pour apparemment délivrer un autre agent.
Américaine ou britannique ?
Elle est britannique et l'agence est américaine, je crois.
Peu importe, ça m'avait l'air bien britannique quand même.
Aussi, hein.
Mais
à part pour John Goodman, tout le reste, ça m'avait l'air super britannique.
Voilà. C'est Goodman qui lui donne sa mission.
Bah
c'est
non,
lui,
c'est
je crois
pas lui qui donne la mission, c'est un autre gars dans le trailer.
Peu importe, en tout cas, il y a John Goodman. James McAvoy. Il y a une actrice algérienne qu'on connaît un peu en France.
Oui, qui a joué dans Star Trek et qui va jouer la momie. Elisa. Sophia Boutella.
Exactement.
Sophia Boutella, qui est en train de se faire son petit trou à Hollywood.
Elle a joué dans Star Trek.
Elle a joué l'alien blanche dans Star
blanc.
Trek.
Ah ouais,
voilà.
J'adorais ce
très très bon rôle.
Ce personnage et tout le maquillage, j'ai trouvé ça exceptionnel.
Et donc, comment
et la bande
ce
annonce
film bah, c'est John Wick au féminin.
Ouais. En tout cas, c'est une
ça
la bande annonce
c'est
en
John Wick mélangé à Jason Bourne.
Voilà, ouais, moi j'aurais dit Jason Bourne, voire en un peu plus, encore moins réaliste, j'ai envie de dire, mais qui vraiment envoie du lourd, du fun,
oui.
de l'action un peu originale, etc. Regardez la bande annonce, je pense que c'est ce qui parle le plus.
Ah oui, ça c'est sûr que de toute façon.
Et il y a l'air d'avoir une belle ambiance, un très bon personnage. Bon, Charlize Theron, je suis fan évidemment, mais
après ambiance,
c'est un vrai personnage comme on l'aime d'action,
ouais.
Au féminin, sans qu'il y ait la moindre perte à aucun niveau. Parce que c'est un personnage féminin, etc. Oui, là, il n'y a pas de romance, a priori.
Que,
là, c'est du badass.
Enfin, il y a une bonne scène de romance, quand même, hein, mais pas comme on l'attend.
Il y a une scène
pas
de romance, mais on vous laisse la découvrir.
Voilà, hein. C'est ça.
Mais moi, par contre, j'ai trouvé ça pas mal, le trailer. C'est vrai que c'est dynamique, c'est plein d'actions, ça va à 2000 à l'heure. Et comme tu disais... c'est pas parce que c'est une femme héroïne que ça ne peut pas manquer de punch. Je veux dire, elle met des patates, elle fait tout aussi mal qu'un Jason Statham, hein, et on y croit.
Et elle s'en prend plein la gueule.
Les scènes d'action sont particulièrement violentes,
oui.
Et
oui,
beaucoup mieux que celles d'Iron Fist, pour le
oui.
coup.
Oui, ah,
franchement, voire
oui,
plus violente que Daredevil, il n'y a vraiment pas de compromis, et c'est vraiment une réussite à ce niveau-là.
Par contre, moi, j'ai juste eu un problème avec l'atmosphère, comme tu dis, l'ambiance. Ce côté, ces couleurs ternes et tout ça, pour moi, c'est du revu de Jason Bourne, donc qui fait pas spécialement original. Je sais pas, le titre, ça s'appelle Atomic Blonde, les couleurs sont fades, tu vois même pas qu'elle est blonde. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
J'aurais plus vu un truc un peu plus coloré, un petit peu plus punchy avec un nom comme ça. Pour le moment, c'est juste. Mais après, c'est un choix de leur part. C'est juste que.
C'est un choix. Moi, ça a l'air un petit peu. Il y a un petit côté noir, un petit.
Ouais, mais je sais pas.
Pour le coup, ça m'a.
Le visuel m'a pas convaincu. Après, le film en lui-même, j'ai quand même envie de le voir. Ça m'a intéressé.
Et la troisième?
Alors, la dernière, du coup, de nos héroïnes, donc, c'est Wonder Woman,
ouais.
Dont le film est prévu pour cet été.
Non, je crois que ça arrive là bientôt. Hein.
Très bientôt?
Ah, ouais, je pense que c'est... je vais pas dire imminent, mais dans les prochains mois.
Donc,
Wonder Woman, tout le monde connaît, je pense.
Voilà, la quatrième installation du DC Cinematic Universe. Après donc Man of Steel, Batman vs Superman et Suicide Squad, réalisé par Patty Jenkins, avec Gal Gadot dans le rôle principal. Donc ça va être une origin story grosso modo.
Ouais, parce que là on remonte dans les années.
C'est la Première Guerre mondiale.
Première ou seconde, je sais.
Première. J'aurais dit la première.
C'est la première. Oui,
c'est la première. Donc voilà, le personnage on l'a déjà aperçu dans Batman vs Superman.
Oui.
Et oui, il faut avouer que oui, elle est badass. Oui, c'est un personnage fort. Qui fait son effet. J'étais pas convaincu par Gal Gadot quand on avait annoncé que c'était elle qui allait la jouer, mais en fait oui, pourquoi pas, franchement c'est...
ça passe pour l'instant,
ça passe.
Non, ça passe plus, c'est plus que ça passe, je trouve que j'étais pas du tout fan de l'actrice, je la connaissais pas, mais j'aurais préféré
pas vu Fast and Furious 5.
Oui, bon, c'est des films que
j'ai vu. Fast and Furious 5, j'ai arrêté un peu loin, moi.
J'ai été vraiment surpris et conquis, j'ai envie de dire, par la performance de l'actrice dans Batman vs Superman, qui tirait bien son épingle du jeu et qui était là, présente dans les scènes de combat, etc. Et en dehors des scènes de combat aussi, il y avait un personnage derrière qui est déjà en place. Donc, je serai au rendez-vous pour Wonder Woman.
Oui. Bon, moi non. Je ne serai pas au rendez-vous parce que je pense que de toute façon, comme tous les films du DCU, il va se casser la gueule, quoi qu'on en dise, quoi qu'on puisse espérer. Je pense que ça va être un échec, mais ça c'est un avis personnel.
Ouais.
Mais bon, tout ça pour dire que finalement, on est plutôt ravis de voir des films qui s'annoncent.
Du moins, voilà,
avec...
ce qu'on peut dire, c'est que au-delà du film qui sera bien ou pas, l'image qui est renvoyée de Wonder Woman est cohérente. Je veux dire, c'est un personnage fort qui sait se battre et qui sait tenir la place de premier rôle.
Qui
et
tient
de...
la dragée haute.
Voilà, même s'il y a un personnage secondaire qui est Chris Pine, qui lui-même a, un certain... une certaine image, on sent que c'est quand même elle qui est au premier plan et pas forcément lui, donc ça marche.
C'est plutôt une bonne chose. Ouais.
Et du coup, le film que vous attendez le plus parmi ces trois-là ?
Parmi les trois ?
Initialement, Ghost in the Shell, mais j'ai de plus en plus peur, et du coup, ça sera Atomic Blonde pour moi.
Moi, je pense que ce sera plutôt Ghost in the Shell, juste parce qu'il y a Takeshi Kitano dans le film.
C'est vrai, Aramaki.
Voilà.
C'est, je comprends. Et toi ?
Je veux dire Wonder Woman, voilà. Juste pour prouver...
pas mal.
Parce que ça me fera plaisir de prouver à D-Boy qu'il s'est complètement trompé. Je pense que s'il y a un film qui marchera sur DC, ce sera celui-là. Bon, j'en ai pas la garantie non plus, mais on verra. Mais j'attends quand même impatiemment Ghost in the Shell, parce que je connais pas les mangas.
Oui.
Et Atomic Blonde, effectivement, le trailer fait son effet. Donc, les trois sont sur ma liste. Mais Wonder Woman, je pense que j'ai des attentes et je... à tous les niveaux, au niveau du film et au niveau de la licence.
Tu mets ton billet dessus.
Voilà.
Tu y crois. Bon ben voilà, tout ça pour dire qu'on est ravis de voir des films avec des héroïnes badass, parce que nous sommes féministes chez Forum.com et nous sommes fiers de le revendiquer. Cette jolie phrase marque la fin de notre 6e session du Forumcast. Nous vous invitons, très chers auditeurs, à déposer de nombreux commentaires, ce que vous avez apprécié. N'hésitez pas, puisqu'on va poster les liens des bandes annonces, nous dire celles que vous avez le plus aimées, celles que vous attendez, celles que vous n'avez pas du tout appréciées.
Ou celles que vous auriez aimé qu'on...
Oui, bien sûr. N'hésitez pas également dans les commentaires à poster peut-être des séries dont vous aimeriez que l'on parle. Ça sera l'occasion pour nous de découvrir de nouvelles choses. Quelque chose... c'est une chose qu'on adore faire. Pardon.
Gossip Girl.
Ah oui, je vous raconte.
On pourrait faire des sessions rétro. Comme
voilà,
ça.
Petite session rétro, pourquoi pas.
Et là, je te laisse regarder, hein, par contre.
Ouais, ça, il y a Blake Lively. Et en attendant, eh bien, on vous donne rendez-vous.
Leighton Mister, qui est sympa aussi.
Ouais, c'est vrai.
Je préfère.
J'avais fini de me couper, c'est le final. On vous donne un rendez-vous très prochainement, on espère d'ici la semaine prochaine. Et en attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous laisser des petites notes, des petites étoiles sur iTunes. Parce que oui, il y a un système d'étoiles, j'avais vérifié la dernière fois.
D'accord.
Et donc voilà. Gros bisous à tous, et à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.